Vous écoutez RFI, il est 18h, ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Mardi 11 mars, bonsoir à tous. L'actualité est footballistique ce soir. Pas seulement évidemment, mais dans 3 heures le match Liverpool-Paris Saint-Germain sera à suivre sur notre antenne. D'ici là, voici les temps forts de la soirée sur RFI. Dans 10 minutes, mardi politique. L'invité sera Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, députée du Val-de-Marne. Elle répondra aux questions de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière. Juste après, ce sera le débat du jour. À l'heure des assises du journalisme qui se déroulent actuellement en France, un grand thème cette année, celui des faits divers. Et ce thème a inspiré notre débat. Est-ce que les faits divers constituent des faits de société? Voilà la question que nous poserons. Pourquoi sont-ils aussi présents dans les médias? Qu'est-ce que cela dit de notre société? Eh bien, réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir et le dossier ce soir qui sera consacré à la réunion ce mardi à Paris des chefs d'état-major des pays européens. 18h30 TU, Afrique Soir, la première édition, 19h10 temps universel, votre session reportage. Accent d'Europe sera ce soir au Mexique pour évoquer des relations qui se tendent avec l'Espagne. Et puis donc à partir de 19h30 TU, eh bien votre soirée football sur RFI et la rencontre à suivre en intégralité. Liverpool-Paris Saint-Germain comptant pour les huitièmes de finale au retour de la Ligue des Champions.
RFI.
Mais pour l'heure, il est 17h01 en temps universel et c'est le journal de Juliette Pietraszewski. Bonsoir Juliette.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. En Syrie, après la mort de plus de 1000 civils, majoritairement issus de la minorité alaouite, dans un bastion de l'ex-président Bachar el-Assad, la commission d'enquête lancée par le président par intérim se dit déterminée à faire justice. Yasser Al-Rafaran, porte-parole de la commission, a présenté ses conclusions préliminaires. Selon lui, à la suite des investigations dans la région côtière de l'attaquer, des actes graves de violence, de pillage et de violation ont bien été commis par des groupes armés à l'encontre des civils dans deux villes lors des récentes opérations de sécurité. Ces événements ont profondément choqué la population locale et ont mis en lumière l'ampleur des exactions dont ont été victimes les habitants de la région. Les précisions de notre correspondant en Syrie, Mohamed Erami.
Le porte-parole a insisté sur le fait que la commission, créée sous l'égide du président Ahmed al-Sharaa, a pour mission de documenter ces violations. Cette initiative vise à identifier les responsables de ces massacres, garantir la justice et empêcher les représailles, quelle que soit leur fonction ou leur rang, dans les forces de sécurité ou l'armée syrienne. En effet, le message du gouvernement syrien est clair, il ne tolérera aucune forme d'impunité pour ceux impliqués dans ces actes, et ces derniers seront traduits en justice et punis en conséquence. Le porte-parole a également annoncé qu'un délai de 30 jours avait été fixé pour la publication des résultats complets de l'enquête sur ces événements tragiques. Ce délai est important car il permettra à la commission de poursuivre ses investigations et de compléter son travail de documentation et d'identification des responsables. Cette période pourrait également permettre aux autorités syriennes de rassurer l'opinion publique sur leur volonté de rendre justice et d'assumer leurs responsabilités, a expliqué le porte-parole. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Toujours au Proche-Orient, 4 hommes ont été tués aujourd'hui lors d'une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza. Information de la défense civile du territoire palestinien. À l'heure où la trêve fragile en place depuis le 19 janvier dans la bande de Gaza est au centre des discussions à Doha aujourd'hui. Des négociations indirectes entre Israël et le Hamas. Elles interviennent après la coupure par Israël de l'unique ligne électrique qui fonctionnait encore dans le territoire palestinien. Cette ligne électrique alimentait aussi la principale usine de dessalement d'eau du territoire. Le Hamas dénonce un chantage inacceptable qui menace également la vie des otages israéliens. Fin de citation. En Ukraine, 6 personnes sont mortes aujourd'hui dans des bombardements russes dans l'est du pays. Précédemment, la Russie a également été visée dans la nuit de lundi à mardi par plus de 330 drones ukrainiens. C'est la plus importante depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2021. Par ailleurs, Moscou a déclaré avoir repris à l'armée ukrainienne 12 localités et plus de 100 km² de sa région frontalière de Koursk. Et ces dernières péripéties interviennent aussi à l'heure où des négociations entre les Ukrainiens et les Américains ont lieu en Arabie Saoudite aujourd'hui. Des négociations pour parler d'un cessez-le-feu partiel avec la Russie et sur lesquelles plane l'ombre du président américain Donald Trump et la visite désastreuse fin février dernier de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Avec son retour dans le bureau ovale, Donald Trump fait bouger les lignes des relations internationales. Aujourd'hui, il a souhaité à sa manière la bienvenue au nouveau Premier ministre canadien en redoublant de menaces commerciales contre le Canada, assurant que la seule chose censée à faire pour le pays était de rejoindre les États-Unis. États-Unis. Sur le Groenland, il a précédemment formulé sa volonté d'annexer ce territoire très riche en minerais convoité par l'industrie. Le territoire autonome rattaché au Danemark vote d'ailleurs pour les législatives aujourd'hui. Il remet en jeu les 31 sièges de son Parlement. Et dans le pays, pour l'instant, il n'y a que deux projets d'exploitation de terres rares. Mais l'un des trois projets est suspendu car le gouvernement sortant a interdit l'exploitation des gisements radioactifs. Dwayne Meneses, directeur du laboratoire d'Idée Polar Research à Londres, explique pourquoi l'exploitation minière au Groenland suscite des inquiétudes environnementales.
Ce qui me préoccupe, c'est la durabilité environnementale de ces projets, car les terres rares sont souvent accompagnées d'uranium et de thorium, des éléments radioactifs. Cela ne poserait pas de problème si les projets de terres rares se trouvaient dans des régions isolées du Groenland. Le problème ici est qu'ils se trouvent sur la seule ceinture verte du Groenland. Il y a une petite communauté locale, des fermes d'élevage de moutons, des sources d'eau à proximité des projets. Tout rejet de déchets miniers, et en particulier de déchets radioactifs dans l'eau, pourrait réellement affecter les communautés locales et leurs moyens de subsistance traditionnels. Les deux projets n'ont pas suscité la même controverse. L'un d'eux, Kringlerne, contient moins d'éléments radioactifs. C'est pourquoi il a reçu une licence d'exploitation. Le second projet, Kvanefield, a reçu une licence d'exploration, mais pas de licence d'exploitation, en raison de la controverse suscitée par le potentiel radioactif de l'exploitation minière. Cela a fait l'objet d'un procès, avec une demande d'indemnisation de plusieurs milliards de dollars contre le gouvernement du Groenland qui est revenu sur ses autorisations.
Des propos recueillis par Raphaël Morand de la rédaction en espagnol de RFI. Direction l'Asie du Sud-Est, l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a été arrêté par la police ce mardi à l'aéroport de Manille en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI. Arim Lipol, bonjour.
Bonjour, bonjour Juliette, bonjour à tous.
L'ancien chef d'État philippin est désormais en route vers La Haye où il doit être jugé par la CPI. Elle le soupçonne de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre les stupéfiants.
Oui, une fois arrivé à La Haye, Rodrigo Duterte doit être transféré au siège de la Cour pénale internationale. Il sera ensuite placé en détention. La CPI avait ouvert une enquête sur l'opération anti-drogue lancée par l'ancien dirigeant en 2016. À son initiative, d'ailleurs, les Philippines avaient quitté la Cour pénale internationale, mais celle-ci a maintenu sa compétence sur les crimes commis avant ce retrait, ainsi que sur ceux perpétrés à Davao, lorsque cette ville a été dirigée justement par Rodrigo Duterte. Les ONG de défense des droits humains estiment que des dizaines de milliers d'hommes, en majorité pauvres, ont été tués par la police et des milices, souvent sans preuve de leur implication dans le trafic de drogue. L'ancien président, qui s'est lui-même qualifié de tueur et a toujours défendu ses opérations sanglantes, reste très populaire aux Philippines. Il dénonce une persécution. En tout cas, cette arrestation marque un succès pour la Cour internationale, pour la Cour pénale internationale. Sur 60 mandats d'arrêt émis depuis 2002, seuls 21 avaient été exécutés.
Les précisions d'Arim Lipold du service international de RFI. Retour en France, plusieurs centaines de personnes, dont des enseignants et étudiants, ont manifesté ce mardi à Paris, place de la Sorbonne, contre l'austérité et les coupes budgétaires dans l'enseignement supérieur et la recherche. Cette mobilisation a eu lieu au moment où se tenait une réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Plusieurs assemblées générales se tiendront également dans des facs un peu partout en France jeudi. Au programme, la suite de la mobilisation. Pour Camille François, enseignant en sociologie à Paris 8, la situation est grave. Il participait à la manifestation Place de la Sorbonne à Paris.
On est là pour lutter contre les coupes budgétaires drastiques qui frappent l'université et la recherche publique. Je vous donne un exemple. Moi, le laboratoire auquel je suis rattaché va voir son budget diminuer de 55%. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont empêchés. Et puis, ce qui nous pend au nez, c'est des réductions dans l'offre d'enseignement, donc avoir moins de cours, des enseignants qui sont de plus en plus en situation de précarité juridique, qui n'ont pas de vrais contrats, mais aussi une menace qui pèse sur les étudiants, avec une éventuelle augmentation des frais d'inscription. Pour donner le contexte général, c'est l'État qui met en faillite les universités, en fait, en refusant, pour des choix budgétaires politiques, de leur donner les moyens de fonctionner, donc d'accueillir les étudiantes et étudiants, de les former dans des bonnes conditions, mais aussi les personnels de l'université, de connaître en fait des conditions de travail dignes. Et donc c'est contre tous ces fléaux aujourd'hui qu'on manifeste.
Camille François, enseignant en sociologie à Paris 8. Des propos recueillis par Laurence Théo. RFI, il est 18h09 à Paris, bientôt 18h10. Merci beaucoup de nous écouter. Et tout de suite, c'est Mardi Politique.